Alors bonjour à tous. Donc comme Jeff a dit, donc je m'appelle Lionel, j'ai 30 ans. Je suis marié avec une femme qui s'appelle Juliette, donc je viens de Tours. Et donc je suis équipier, donc je travaille à temps partiel avec les groupes bibliques universitaires à Tours. Et à côté de ça, je travaille dans un collège-lycée. Donc je suis assistant d'éducation, ça c'est le mot officiel, mais ça veut dire surveillant. Voilà, surveillant à temps partiel dans un lycée. Voilà. Alors, moi ce matin, je trouve que ce serait dommage de commencer tout de suite avec le thème que j'ai. Donc, on pourrait dire que ce dont j'ai envie de vous parler, ça s'appelle... On pourrait donner un titre à ce que j'ai envie de dire. Ce serait « Sommes-nous prêts à être dérangés ?» Voilà, c'est ça le titre de mon message. « Sommes-nous prêts à être dérangés ?» Mais pour ça, il faut que je vous raconte un petit peu plus par rapport à ma propre vie. Donc moi, avant d'être équipier local avec les groupes bibliques universitaires, j'étais missionnaire à temps plein avec une organisation chrétienne qui s'appelle Jeunesse en Mission. Souvent, les gens connaissent Jeunesse en Mission par les campagnes d'évangélisation des années 80, ou parce que c'est Jeunesse en Mission Suisse qui a édité les recueils de chants « J'aime 1, j'aime 2, j'aime 3 ». Jeunesse en Mission 1, Jeunesse en Mission 2, Jeunesse en Mission 3. Voilà. Et donc, j'ai été missionnaire à temps plein avec ma femme pendant 5 ans. Voilà. Donc, de 2009 à 2014. Et du coup, on a eu l'occasion de beaucoup voyager, parce que ce qu'on faisait, en fait, on avait un centre, donc au Haut-Gaulle-la-Forêt, c'était un centre missionnaire où les gens venaient se faire former, et ensuite, ils allaient en mission. Donc, on les accompagnait, en fait. Donc, ceux qui étaient impliqués dans les écoles de formation accompagnaient les étudiants en mission. Alors, on a été en mission à Madagascar, entre autres. Ça a été notre première mission. J'étais dans la même équipe que ma femme. Et donc, on a passé 3 semaines en brousse. Donc en brousse, voilà, c'est vraiment dans des conditions particulières. On était une équipe de 10 avec 2 traducteurs et on vivait dans une chambre qui devait être de ce mur-là à là, peut-être, en longueur. Et puis en largeur, ça devait bien être de ce mur-là à moi. Voilà, à peu près. Et donc, on vivait à 10, là. Donc, garçons, filles, et puis il faisait chaud. On était à Madagascar. Alors, bon, il y avait des odeurs, même, parfois. Mais bon, ça, on s'y fait. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, en fait, le but de notre mission, là, c'était de venir dans ce village-là et d'essayer d'implanter une église. C'était ça, l'idée, en fait. Donc, notre stratégie, c'était... d'être dans le village, de passer du temps avec les gens et d'organiser tous les soirs en fait des histoires bibliques. Voilà. Alors comme il y avait des gens qui étaient analphabètes en brousse, il y en a qui avaient vaguement appris à lire, on s'était dit que les histoires bibliques ça pouvait être pas mal. Donc faire un espèce de parcours biblique pendant 3 semaines, commencer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais de tout faire sous forme de mimes, d'histoires racontées, voilà, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et dès les premiers soirs, on s'est rendu compte que c'était pas évident du tout, en fait. Parce que ceux qui venaient, c'était souvent des femmes et des enfants. Or, on savait très bien que dans cette culture-là, c'est une fois que le mari a eu l'information qu'il va l'enseigner à sa famille. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc on avait un sérieux problème. Si on pouvait en parler qu'aux femmes et aux enfants... On ne pouvait pas s'assurer que les foyers, en fait, puissent avoir un enseignement, on va dire, un enseignement légitime. Parce que l'enseignement légitime venait du père. Et donc, on avait ce petit problème au début. On était là, comment est-ce qu'on va faire? Alors, pendant les journées, on faisait du porte-à-porte. On allait voir les gens avec nos traducteurs pour qu'on puisse parler. Et on n'y arrivait pas. Alors, à un moment donné... On était peut-être là-bas depuis 10 jours. Il y a eu une tempête. Donc une espèce de tempête. Bon, heureusement que ce n'était pas une tempête qui était directement sur nous. Mais nous, on a eu toutes les espèces de vents résiduels qui sont autour de la tempête. Et cette nuit-là, on a vraiment eu peur pour nous quand même. Parce que les bruits faisaient peur. Donc nous, on était dans notre maison, je vous rappelle. Et ça faisait peur. Le lendemain, on se réveille, on sort, et là, il y avait des choses qui étaient tombées, il y avait des branches qui étaient tombées, des arbres qui étaient tombés. Et donc, on se dit, bon, bah, on va aller faire comme d'habitude, on va aller faire du porte-à-porte. Donc, on va faire du porte-à-porte. Et on arrive chez un vieil homme hein, qu'on avait l'habitude d'aller voir. Et il nous dit, vous savez, ben, apparemment vous avez envie d'aider, vous avez envie de faire quelque chose en fait. Ben, il y a des hommes en fait qui sont dans la rivière parce qu'il y a un bateau en fait à cause de la tempête qui a comme coulé en fait, qui a pris l'eau et puis qui est allé dans l'eau quoi. Donc il y a des gens qui essayent en fait de le sortir. Donc si vraiment vous voulez aider, allez-y. Et moi dans ma tête, je me suis rappelé de l'état de l'eau. En brousse. L'état de l'eau en brousse, c'est pas beau à voir. Hein. C'est de l'eau marron, c'est de l'eau. Quand on met les pieds, on ne sait pas sur quoi on marche. Hein. Parfois, il y a des parties visqueuses, il y a des parties. On dirait qu'il y a des bébêtes qui sont en dessous des orteils. Alors moi, je me dis, dans ma tête, je me dis, oh non, ils vont pas nous faire ça, s'il te plaît, Seigneur. Mais extérieurement, je suis là, mais oui, bien sûr, mais oui, il n'y a pas de problème. On va aller aider. Bon, ben, allons mettre les maillots alors. Hein. Donc, on est allé dans notre maison, dans notre carré, on a pris nos maillots, hop, et une partie de l'équipe y est allée. L'autre équipe devait commencer à faire à manger, parce que là, on faisait à manger au charbon, donc faire à manger, c'était pas comme faire des pâtes avec une plaque électrique. Là c'était faire à manger, ça prenait 2 heures pour faire du riz, quoi. Voilà. Donc, il y avait une équipe qui commençait à faire à manger. On y va. Je me rappelle, on prend une pirogue. On arrive jusqu'à l'endroit. Là, il fallait plonger dans l'eau. Et là, on voit donc la scène, le bateau qui a coulé. Les hommes qui sont là, qui crient, qui essaient de faire quelque chose. Hey, allez, il faut essayer de faire sortir le bateau. Alors nous, on plonge dans l'eau. On devait être trois garçons et 2 filles. On arrive. Alors, je me souviens, moi, je commence à toucher le bateau, je me dis, bon, on va essayer de pousser ou de faire un peu semblant de pousser, en tout cas, voilà, parce que bon, on n'était pas plus fort qu'eux, en tout cas. Donc, on commence à essayer de lever le bateau, hein. Et en quoi? En 5 minutes, à peu près, le bateau arrive à se lever, on monte dans le bateau, on écope, donc on enlève l'eau. Et on est super content d'avoir assisté à ça, nous, en tout cas. Vu qu'on était là depuis 5 à 10 minutes seulement. Donc, on est super content. En 10 minutes, c'est fait. 15 minutes après, on est dans la pirogue à nouveau. On rentre, etc. Pas de problème. Donc, on est super content. Quelques jours après, on fait du porte-à-porte. Et là, on repart chez ce vieil homme. Et donc on arrive dans sa maison et là il nous explique. Mais vous savez ce qui s'est passé en fait là il y a quelques jours, vous avez aidé en fait à sortir un bateau. Et en fait ce qui se passe c'est que les hommes du village, ils disent que les étrangers sont venus avec la puissance de Dieu. Alors nous on fait il faut qu'on nous explique. On les a jamais vus à une seule des réunions du soir. Et eux, ils vont raconter au vieil homme que nous, on est venus avec la puissance de Dieu. Il faut qu'on nous explique, là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et là, il nous en dit plus. Ben, en fait, ils étaient en train d'essayer de sortir le bateau depuis 5 heures du matin. Vous êtes arrivés à 11 heures. Donc, vous êtes arrivés. Et il y a certains hommes qui m'ont raconté que quand vous avez touché le bateau s'est soulevé, littéralement. D'accord. À partir de ce jour, on a continué à faire nos histoires du soir. Et je me souviens, comme il n'y a pas d'électricité en brousse, celui qui faisait l'histoire avait une lampe frontale, comme ça, pour éclairer. Et souvent, c'était enfants et femmes dans les rangées. Et petit à petit, on a commencé à voir une nouvelle rangée. Enfants, femmes, hommes. Et petit à petit, alors que le temps passait, on voyait les rangées des hommes grandir Et je me souviens, à la fin, j'avais fait, je crois, l'avant-dernière histoire ou la dernière histoire. J'avais la lampe frontale comme ça. Et je faisais exprès de faire ça. Et donc, vous voyez, et puis je voyais tous les hommes derrière, et puis j'étais content. Parce que je me disais, oh là là, ça c'est bien. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Je viens de dire que j'ai envie de parler de « Sommes-nous prêts à être dérangés ?» Moi, quand on m'a dit « Va aider », j'ai tout de suite pensé « Oh, non, c'est sale, c'est pas bien, c'est pas ci, c'est pas ça, nanana. » Je pense à mon intérêt personnel. Malgré ça, tout de même, Dieu nous utilise. Et il y a un témoignage absolument beau à cette histoire. Mais c'est mon attitude qui était pas bonne à ce moment-là. Alors, je vous invite à lire dans Matthieu 15. Versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Alors, Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Donc là, c'est pendant le ministère de Jésus. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière eux. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment-là, sa fille fut guérie. Alors ici, j'aimerais juste attirer l'attention sur les deux attitudes qu'on voit dans ce texte. On ne va pas nécessairement s'intéresser pour le moment à la femme elle-même, celle qui vient demander de l'aide à Jésus. On va plutôt s'intéresser à l'attitude de Jésus d'un côté et des disciples de l'autre. Qu'est-ce qu'on a comme attitude de Jésus dans ce texte? Jésus, il écoute la femme. Il écoute la femme. Même s'il ne lui donne pas tout de suite ce qu'elle demande. Il l'écoute. Il est sage. Il écoute. Il écoute. Il écoute. Pendant ce temps-là, que font les disciples? Eux, ils disent « Renvoie-la car elle crie derrière nous ». Quelqu'un vient qui est en souffrance, qui a besoin de quelque chose. Jésus, lui, il écoute. Je prends les informations, j'écoute. Qu'est-ce que cette femme veut? Qu'est-ce que cette femme veut? Les disciples, eux, non mais renvoie-la, elle, hein. Parce qu'elle crie, là, hein. Elle crie, elle est derrière nous, elle nous dérange, là, hein. Renvoie-la. On n'a pas que ça à faire, là. Hein. Il faut qu'on aille faire un truc là-bas. Hein. Là, il y a une femme qui nous tient, hein, qui nous tire et qui veut presque nous garder en arrière. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il proclame une parole pour susciter une réaction de foi chez la femme. C'est ça qu'il fait. Pendant ce temps-là, que font les disciples? Eux, au moment d'agir, finalement, vu que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, au moment d'agir, eux, les disciples, ils font rien. Alors, on a peut-être loupé le coche, je ne sais pas. Et enfin, que fait Jésus? Il l'aide. Il l'aide. Il fait quelque chose pour qu'elle soit guérie. Pour que sa fille, du moins, soit guérie. Pendant ce temps-là, que font les disciples? Néant. On aurait pu entendre des mouches voler s'il n'y avait eu que les disciples à ce moment-là. On va lire dans Matthieu 13 maintenant. C'est juste un peu plus haut, Matthieu 13 au verset 22. Matthieu 13, verset 22. Donc ici, c'est Jésus qui donne en fait l'explication de la parabole du semeur. Et entre autres, dans cette explication, ce qu'il dit au verset 22, il dit celui qui a reçu la semence parmi les ronces, donc celui qui a reçu la parole de Dieu dans la parabole du semeur, parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. on va s'occuper de savoir quelle a été l'une des préoccupations des disciples tout au long du ministère de Jésus. Et là, on va lire dans Luc 9. Dans Luc 9, verset 44. Verset 44 à 47. Ou même verset 43 à 47. Donc, Jésus vient de guérir un démoniaque. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un enfant et le plaça auprès de lui et leur dit. Ensuite, il parle par rapport à l'enfant. Mais moi, je veux mettre l'accent sur « Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. » Il vient de leur dire « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Hein » Peut-être que c'était quelque chose de vraiment important, à ce moment-là, de très solennel. Faites attention aux choses importantes. Et eux, ils ont eu une discussion entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Pile à ce moment-là. Une réaction de la même sorte, on peut la lire dans Luc 22, verset 24, où on peut même remonter un peu. Hein. Jésus est en train de parler de celui qui le trahit, en fait. Hein. Donc, il est en train d'expliquer que quelqu'un va le trahir. Donc là, on est dans le dernier repas avec les disciples. Au verset 21, « Celui qui me trahit est avec moi à cette table. » Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus vient de leur expliquer quelque chose d'ultra important. Là. C'est peut-être la chose à écouter. Et finalement, essayer d'y réfléchir. Hein. Mais non, là, pile à ce moment-là, il y a une rivalité entre les disciples pour déterminer lequel d'entre eux est le plus grand. Vous savez, moi, je m'identifie beaucoup à l'attitude des disciples, et pas à l'attitude de Jésus, pour le coup. Qu'est-ce que mon histoire de tout à l'heure a montré sur moi-même ? Quelque chose de très important devait avoir lieu, très probablement. On était là pour tout de même essayer de commencer une église dans ce village. À la première situation qui devait réellement me coûter à moi, qu'est-ce que j'ai fait dans ma tête ? Parce que c'est pas la réaction extérieure qui compte. La réaction extérieure, on peut toujours sourire. Oh, c'est trop bien, on va les aider. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que je pensais vraiment ? À l'intérieur, c'était en fait... Oh là là ! Je pensais en fait à toutes les choses négatives par rapport à ce qui devait être fait. Et pourtant, c'est précisément ça que Dieu a utilisé pour totalement renverser notre voyage en brousse, notre séjour en tout cas en brousse. Je vais vous raconter une deuxième histoire de ce qui m'est arrivé à Madagascar. À Madagascar, à un moment donné, Je me souviens, on était dans une journée off, donc une journée de repos en fait, pendant notre voyage missionnaire. Et là, on va dans un espèce de supermarché qui pourrait être comparé, par exemple, à un Carrefour Market. Hein, voilà. Et donc, on y va. Et ce genre de magasin était très rare dans la ville où on était. Mais là, on voulait un peu se faire plaisir. Hein, c'est le jour de repos. Bon, on va s'acheter des sodas, des choses qu'on n'a jamais quand on est là-bas. Hein. Donc là, moi, j'étais trop content. Je vais dans le magasin. J'ouvre l'espèce de réfrigérateur. Là, et là, je prends... Alors, je me souviens plus si c'était un Oasis ou un Fanta. En tout cas, je prends une petite bouteille. Là, j'étais trop content. J'ai fait même... Je passe à la caisse, tellement heureux de mon achat. On sort, et en fait, à la sortie de ce magasin, il y avait toujours des enfants mendiants, donc des enfants qui demandent, en fait. Qui demandent, en fait, ce qu'on achète, ou qui voient que... Ah ben, eux, comme ils sortent de là, ça veut dire qu'ils ont de l'argent. Je sors, Et il y a des enfants qui commencent à s'approcher de nous. Alors, assez vite, on leur fait non, mais en fait, on a rien, etc. et tout. On commence à marcher. Et moi, il y a une petite en particulier qui vient, en fait, vraiment, et qui commence à toucher ma bouteille, en fait. Donc, un peu, ça, c'est pour moi, quoi. Et moi, je suis là, alors, au tout début, je suis très gentil, hein. Non, ma petite, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Tu vois. Y a pas de problème, hein. Allez, à bientôt. Et on continue à marcher, donc on s'éloigne du magasin. Elle revient vers moi. Elle me désigne ma bouteille, donc. Et je peux vous dire que je pense pas que c'était, comment dire ça? Je pense pas que c'était du chiquet, ce qu'elle faisait, hein. Je pense pas qu'elle faisait semblant, hein. Et elle est là, elle retouche ma bouteille. Alors moi, je suis là, je pensais au fait d'être désaltéré par cette magnifique bouteille de Fanta, hein, qui était toute fraîche, qui faisait chaud. Et je suis là, je lui refais un petit peu un truc, bon, légèrement moins gentil, hein, à ce moment-là, je vous avoue. Non, mais en fait, non, ça va être pour nous, voilà, c'est bon. Et là, on s'éloigne vraiment. Et là, cette petite fille s'était carrément éloignée de son groupe, d'enfants. Elle continuait à me suivre. Et là, on devait être à 100 mètres du magasin. Donc moi, je commence à me demander, mais qu'est-ce qu'elle a avec cette bouteille? Qu'est-ce qu'il y a sur cette bouteille, au final? Est-ce que c'est une bouteille spéciale? Si on a cette bouteille, on gagne à la loterie de Madagascar? Ou je sais pas, il y a peut-être un truc qu'elle a vu que je sais pas. Et elle revient vers moi. Et cette fois-ci, elle se met vraiment comme ça. Et alors, là, elle me regarde et elle désigne ma bouteille. Alors, je m'accroupis, je me mets à sa hauteur. Et je lui dis, mais c'est ma bouteille. Et du coup, elle me regarde et elle veut ma bouteille. Donc elle Et après, j'ai fait, mais tu as vraiment soif, enfin, tu as vraiment soif, donc tu es comme ça, etc. Et elle me fait oui de la tête, ben, je lui ai laissé ma bouteille à ce moment-là. Et je me suis relevé, et elle est tout simplement partie avec ma bouteille. Et dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Et je me souviens que ce jour-là, la pensée qui m'est venue tout de suite, c'est ce passage que je viens de lire, le passage de la femme cananéenne. Là où, en fait, cette femme vient, il y a Jésus, il y a les disciples, et finalement, on a l'impression qu'elle s'accroche pour obtenir ce qu'elle souhaite. Elle s'accroche, malgré l'attitude absolument folle des disciples, hein. C'est une attitude presque vraiment impolie, en fait, hein, ce que les disciples ont dit. Oh, mais non, mais renvoie-la, elle arrête pas de crier derrière nous. C'est bon, hein. On a d'autres préoccupations. De la même façon, moi, j'étais là avec ma bouteille, hein. Ouais, mais moi, j'ai d'autres préoccupations, hein. Je pense à moi-même, je pense à ma désaltération, là. Donc, s'il te plaît, t'es bien gentil, je sais que tu es l'enfant de la rue, mais tout de même. La bouteille, c'est sacré dans ces conditions-là. Et elle est venue plusieurs fois, comme cette femme-là. Plusieurs fois. Et presque, encore une fois, je lui ai laissé ma bouteille presque à l'usure, en fait. C'est pas parce que, nécessairement, j'étais vraiment... que mon cœur s'était transformé soudainement, etc. Non, je pense pas. C'est presque parce qu'elle m'a eu à l'usure, en fait. Mais j'ai tout de suite pensé à ce passage-là. Je pense pas qu'elle ait eu Jésus à l'usure, là, en fait. Jésus savait très bien ce qu'il était en train de faire. Et je pense que c'est l'attitude de Jésus qu'on devrait imiter au final. Écoutez. Et ensuite être prêt peut-être à faire peut-être le petit geste qu'on peut être capable de faire. Est-ce qu'on n'est pas appelé à être des lumières? Est-ce qu'on n'est pas appelé à être la lumière du monde? Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop quoi dire là, mais quelquefois ça nous dérange franchement. Quelquefois on est franchement dérangé. Mais est-ce que on va choisir de se mettre dans une attitude, dans l'attitude presque des disciples, où finalement on cherche un petit peu quand même notre intérêt, hein. Ou est-ce qu'on va chercher finalement à essayer du moins? Et je ne suis pas en train de dire que j'ai réussi à faire ça, hein. Là, ce que je vous ai partagé, les deux histoires sur moi que je vous ai partagées, c'est des ratages. Enfin, je considère que c'est des ratages de mon côté. Est-ce qu'on est prêt à être dérangé? C'est ça, ma question. Par rapport à ces deux attitudes qui sont différentes. On a un grand défi, et ça c'est la chose peut-être qu'il faudrait qu'on retienne de tout ce que je viens de dire. On a une chose à retenir, et cette chose à retenir, on peut la trouver dans Philippiens 2, 4. Ici donc c'est Paul qui écrit à l'église des Philippiens, hein. Et là il leur donne plein de conseils pratiques, en fait, à ce moment-là, hein, du livre. Et il dit, entre autres, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. J'aime bien parce qu'il dit « regarde aussi à ceux des autres ». Pas « oubliez-vous totalement ». Non, non. Que chacun de vous, au lieu de regarder que son propre intérêt, regarde aussi celui des autres. Ça commence personnellement. Oui, bien sûr que même ce que Jésus dit au final, le plus grand commandement, la seconde partie du plus grand commandement, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut quand même dire qu'il faut qu'on s'aime un minimum aussi. Aime ton prochain comme toi-même. Ici, le grand défi qui est donné par cette question, sommes-nous prêts à être dérangés? C'est sommes-nous prêts à donner, même quand ça nous coûte? C'est ça, la question. Et enfin, on va terminer par Luc 19, au verset 10. Luc 19, au verset 10. Le chapitre 19 de Luc, c'est Jésus qui va chez Zachée, ce collecteur d'impôts. Et une fois que Zachée montre son attitude de cœur à Jésus, ce que Jésus dit à propos de Zachée, il dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Et là, il donne quelle est la mission qu'il a sur la terre, lui Jésus. Il dit « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il est venu pas seulement sauver ce qui était perdu, il est venu chercher puis sauver ce qui était perdu. Ici, je pense que l'attitude que nous devons imiter, quand on se pose la question « Sommes-nous prêts à être dérangés ?», c'est l'attitude de Jésus. Est-ce qu'on est prêt à ce que ça nous coûte? Et est-ce qu'on est même prêt à aller encore plus loin, peut-être, à chercher ce qui nous coûte parfois? Parce qu'on sait très bien que Jésus, ça lui a coûté quelque chose. On sait très bien ce que ça lui a coûté. Est-ce qu'on est prêt à faire même ce pas encore plus fort que de dire « Je cherche ce qui est perdu et qui a besoin d'être sauvé ». Je pense que c'est vraiment un appel, et ça peut commencer par de toutes petites choses. Je ne suis pas en train de demander à tout le monde d'être missionnaire, je ne suis pas en train de demander à tout le monde de faire de grandes choses, non. Mais quelquefois, c'est des toutes petites choses dans la vie. On accepte d'être dérangé sur un tout petit truc. Hein ? Et c'est vraiment avec ça que je veux vous laisser, avec cette question et avec ce défi. Sommes-nous prêts à être dérangés ? Sommes-nous prêts à chercher et à sauver ce qui est perdu. Voilà, merci de votre attention.